France Culture.
Bah oui, parce que de quoi on peut parler en ce dimanche de Pâques en étant très original,
de lapin.
De cocotte.
Ouais.
De poule.
D'œuf.
Bref, de chocolat. Allez, on y va. Bon dimanche à vous.
Bon appétit.
Merci. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Alors oui, on peut manger du chocolat tous les jours, de mauvaise qualité, de marque industrielle, pas cher. C'est comme tout. On peut aussi choisir d'en manger moins souvent, de déguster lentement un, allez deux, carré de chocolat une fois de temps en temps pour se faire vraiment plaisir. Et puis aussi pour soutenir une filière de qualité. Car s'il existe une manière de manger du bon chocolat sans se ruiner, c'est qu'en amont, cela correspond à une façon de consommer du chocolat respectueuse de l'ensemble de la chaîne de production et de fabrication, des humains qui le produisent à ceux qui le fabriquent, de l'arbre à la boutique, du fruit à la tablette, autrement dit, de la racine du cacaoyer au carré de chocolat. Matteo Cosnefroy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chocolatier, fondateur d'une toute jeune entreprise qui a 2 ans et demi, fondée en 2022. Elle s'appelle Racine Carrée. Elle est dans le village de Saint-Janet, dans les hauteurs de Nice. Vous allez nous parler de ce village de Saint-Janet. Mais d'abord, je dis chocolatier. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette appellation de chocolatier? Est-ce que vous préférez artisan, maître chocolatier, chocolatier engagé? Qu'est-ce que vous dites, vous?
Chocolatier, oui, c'est un terme assez générique qui nous permet du coup de classifier le fait qu'on fait du chocolat. Après, on a des appellations qu'on aime bien. On aime bien dire qu'on est fresh bean to bar.
Oula, compliqué.
Et déjà un premier mot un peu compliqué.
Oui, parce qu'on connaît à peu près bean to bar, qui veut dire de la fève à la tablette.
C'est ça.
La fresh bean to bar, c'est quoi?
C'est parce qu'on travaille à partir des fèves fraîches de cacao. On s'occupe avec nos producteurs de la récolte des cabosses de cacao, l'ouverture de ces cabosses au moment de la récolte. On va sélectionner la matière fraîche. On ne mettrait pas de raisins pourris pour faire des grands vins. On ne va pas utiliser de cacao pourri pour faire du bon chocolat.
C'est du logique.
C'est un effort qui nous permet d'avoir derrière une qualité de matière première excellente pour ensuite faire des processus de fermentation. La fermentation va permettre vraiment de développer les notes aromatiques du cacao pour ensuite le transformer en chocolat. Sans cette étape-là, c'est très compliqué de faire du bon chocolat.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, tout le monde pense que le métier de chocolatier, c'est celui qui fait son chocolat. Mais non, en fait, tout le monde ne fait pas son chocolat. Et d'ailleurs, vous qui avez passé un CAP de chocolatier, vous dites que vous n'avez pas appris à fabriquer du chocolat. C'est après que vous avez appris à fabriquer du chocolat.
Exactement. Alors, même un petit peu en amont, parce que à l'époque, quand je travaillais dans les plantations de cacao, j'avais déjà, de manière un peu autodidacte, essayé de fabriquer du chocolat à ma manière. Mais c'est vrai que avec mon retour en France, quand j'ai passé mon CAP, lors de mes études, on nous a absolument pas appris à fabriquer du chocolat à partir des fèves de cacao. Par contre, on nous a appris à travailler le chocolat. On appelle ça un CAP chocolatier. Nous, on aime bien appeler ça aussi les fondeurs de chocolat, puisqu'ils n'ont que le mérite, quelque part, de fondre du chocolat et ensuite le retravailler sous différentes formes, faire des poules, des œufs lors de Pâques, faire des petits bonbons. Alors, évidemment, après, il y a tout plein de techniques, faire des ganaches, faire tout plein de produits qui sont plus dignes de la confiserie que de la chocolat. Selon moi, c'est vraiment une approche un peu différente. Beaucoup de chocolatiers vous diraient que c'est deux métiers différents. Moi, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Une manière à pouvoir travailler une matière que l'on connaît, que l'on peut anticiper, que l'on connaît son histoire, on sait qui sont derrière ces fèves de cacao, quels sont les hommes, quel travail il y a eu en amont, et pouvoir au maximum respecter la matière.
Est-ce que c'est ça, Matteo Cosnefroy, la manière respectueuse de manger du chocolat? J'insistais plutôt sur la qualité en commençant cette émission. Il y a plusieurs façons de manger du chocolat, il y a des moments où on le mange mal quand même.
Oui, alors après, chacun fait comme
sans
un peu.
Sans jugement aucun, hein. Chacun fait comme il peut, bien sûr, mais selon vous.
Pour moi, vaut mieux en manger moins. Déjà pour aussi pour la santé, parce que bon, le chocolat c'est quand même composé de fèves de cacao et de sucre, généralement quand il est très bien fait. Mais c'est quand même deux choses qui, en excès, pour la santé, ne sont pas forcément très bonnes. Même si le cacao contient énormément de choses qui sont très bonnes pour la santé, si, comme tout, hein, c'est toute l'alimentation, dès qu'on en abuse, ça peut être un petit peu problématique. Je pense qu'il vaut mieux manger moins de chocolat. Un chocolat peut-être plus aromatique, mieux travaillé, et en manger du coup du meilleur, mais surtout un petit peu moins pour avoir sa petite dose quotidienne. Voilà, manger du sucre et du gras, c'est pas... Quand on achète un chocolat industriel, on va surtout manger du sucre et du gras, et c'est là où finalement, en grande quantité, ça n'a pas d'intérêt.
À quand remonte votre goût pour le chocolat ? Je crois que vous dites que la première fois que vous avez croqué et apprécier un carré de chocolat, vous étiez quand même tout petit. Hein.
Oui, alors c'est sûr
on est petit quand on goûte du chocolat, c'est vrai.
Oui, bah, comme tout enfant, je pense que c'est un peu nos premiers souvenirs de gourmandise. Voilà, j'ai souvenir de chez ma grand-mère, il y a des tablettes de chocolat de très mauvaise qualité. Enfin, sincèrement, c'était pas du très bon chocolat, mais voilà, discrètement, le soir, je passais dans le placard et je venais prendre deux petits carreaux de chocolat sans rien dire à personne et je le mangeais en secret. Comme ça, c'était ma première gourmandise. Et puis après, le chocolat, il est apparu dans ma vie sous différentes formes. D'abord à travers mes études, puisque j'ai passé un CAP chocolatier, mais mon premier métier, c'est d'être ingénieur agronome, où j'ai travaillé du coup pendant quelques années au Pérou, notamment, pour remplacer en fait les champs de coca par du cacao. Et c'est là où en fait j'ai eu une deuxième rencontre avec le cacao qui m'est apparu en fait comme une alternative vraiment durable pour ces petits producteurs qui du jour au lendemain leur demandaient d'arrêter de faire cette culture qui est néfaste pour l'environnement et surtout illégale par une culture alternative qui serait du coup légale. Et en fait le cacao, s'il est bien travaillé, bien valorisé, c'est une manière de mettre en avant un terroir, un environnement. Le cacao a besoin d'ombrage, il va pousser en agroforesterie, donc on va amener énormément de diversité. Ça va pouvoir abriter énormément d'espèces, aussi bien insectes, animaux et même fleurs, qui va du coup contribuer aussi aux notes aromatiques du chocolat et du cacao surtout. Et voilà, donc c'est un amour qui m'est arrivé lors de mes études, enfin un deuxième amour, un deuxième coup de cœur, mais plus pour l'arbre et ce qu'il pouvait représenter pour ces petits producteurs, une vraie alternative durable pour leur plantation et leur vie.
C'est pour ça, Mathéo Cosnefroy, que vous, non seulement vous fabriquez votre chocolat vous-même, mais vous allez directement chercher la fève au producteur. Vous n'avez pas d'intermédiaire, justement, comme dans le bean-to-bar classique. Et en l'occurrence, vous allez au Pérou, dans une région bien particulière, qui est la région de San Martín, qui est nichée dans la province de Pajarillo.
Exactement.
Une plantation qui regorge de différentes variétés de cacaoyers et d'une grande biodiversité. C'est dire l'importance pour vous des plantations. Vous dites le terroir, comme on parlerait d'un vin d'ailleurs.
C'est-à-dire exactement.
Que chaque plantation, bien que proche géographiquement, possède un terroir unique qui influence les saveurs du cacao. Alors ça dépend du climat, ça dépend de la génétique, ça dépend du type du sol, de l'altitude, c'est ça ?
De tout ça, exactement. C'est impressionnant comment le cacao va se comporter différemment en fonction de l'endroit où il va être planté. On va déjà jouer avec la génétique, un peu comme le cépage, hein. Mais aussi l'influence du sol, l'exposition, le niveau de pluie, la pluviométrie influe énormément. On a deux plantations avec qui on va travailler, deux producteurs, qui est donc la plantation de John Soria, plantation de Churro, qui est une plantation avec des vieux arbres abandonnés qui ont plus de 200 ans. Les arbres montent jusqu'à 25 mètres de hauteur, ils montent jusqu'à la canopée. C'est une plantation qui est dans un endroit très humide. Enfin, voilà, quand on rentre dans cette plantation, on est dans la forêt amazonienne en fait. Hein. On a du mal à distinguer un cacaoyer d'un autre arbre. Cette plantation va avoir du coup plus d'humidité. A contrario, on a une plantation qui est seulement à 10 km un peu plus au nord, dans une zone qui va être un peu plus déforestée, où là on va avoir beaucoup moins de pluviométrie, et donc du coup forcément l'exposition au soleil n'est pas la même, et donc on va pas avoir le même niveau de sucre dans le fruit, ce qui va impacter déjà dans un premier temps au niveau des récoltes. Lorsqu'on va récolter, on va avoir un niveau de sucre qui va être différent dans chaque plantation, et une fermentation qui va être plus ou moins longue. La plantation de Churro, on va avoir avoir à peu près 7 jours de fermentation, alors que Altomiro, on peut monter jusqu'à 15 jours de fermentation.
Or, la fermentation est très très importante dans le processus, dans la palette aromatique, elle joue un rôle majeur dans la palette aromatique d'un chocolat.
Exactement. Comme tous les produits qui sont fermentés, on peut prendre l'exemple du vin, de la bière, du café, du fromage, tous ces produits-là, voilà, la fermentation joue un rôle énorme. Et en fait, le fait de fermenter de manière différente en fonction de chaque terroir va nous permettre de développer des notes aromatiques vraiment différentes sur des micro-terroirs. Pas besoin d'aller chercher des fèves de cacao aux quatre coins de la planète, finalement, pour avoir une diversité d'arômes. Nous, on a préféré se concentrer dans un rayon de 50 km, travailler avec 5 producteurs qui ont des terroirs vraiment différents, et se concentrer sur cette micro-région pour pouvoir créer une palette aromatique dans chacune de nos tablettes vraiment distincte et différente.
Mathéo Cosnefroy, votre entreprise Racine Carrée a été créée en 2022. 2022, si je ne m'abuse, c'est l'année du début de la crise du cacao. En 3 ans, le prix de la fève a été multiplié par 3. En 2024, les prix ont atteint des sommets historiques. Et d'après une enquête début avril 2025 de l'association UFC Que Choisir, en un an, le prix moyen du chocolat dans les grandes surfaces a augmenté de 14%. Et ça, ce serait dû aux mauvaises récoltes des premiers pays producteurs exportateurs que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana, très sensibles au réchauffement climatique. Ça veut dire, alors là je m'adresse aussi bien aux spécialistes du cacao qu'à l'ingénieur à Grenoble, que la fève de cacao, elle est ultra sensible au réchauffement climatique.
Alors, oui, alors surtout dans ces pays qui ont des modèles de production qui sont légèrement différents par rapport à ce qu'on va trouver en Amérique du Sud. Le cacao en Amérique du Sud, il intervient souvent en remplacement des champs de coca qui ont déjà été qui ont déjà été un peu détériorés par cette culture qui demande énormément d'intrants chimiques. Et aussi des produits chimiques pour transformer la pâte de coca en drogue. Le cacao africain, le cacao notamment de Côte d'Ivoire et de Ghana, c'est des plantations qui sont en monoculture, qui vont du coup sont installées uniquement pour produire du cacao, qui ne vont pas avoir de système agroforestier, donc qui vont pas avoir d'ombrage, pas de protection, qui demandent du coup énormément d'investissement en chimie. En engrais chimie, en entretien et ce genre de choses. Et donc forcément, le réchauffement climatique, l'alternance de fortes pluies et de grandes sécheresses va favoriser le développement de certains champignons qui vont ravager ces récoltes-là. Là où, en Amérique du Sud, on va être légèrement moins impacté, on a un impact, on a des saisons qui sont complètement décalées, on perd parfois des campagnes de récolte parce qu'il a trop plu ou pas assez. Ça peut impacter, mais je pense beaucoup moins par rapport à ce qu'on va observer aujourd'hui en Afrique.
Ça veut dire, vous, que vous subissez moins l'inflation du prix ?
Alors, nous, on va subir l'inflation du prix parce que le cacao est un prix qui dépend de la bourse. Donc forcément, le prix du marché dépend de la bourse. Quand il y a sur le marché mondial, il y a moins d'offres.
On négocie une tonne de cacao.
Voilà, quand il y a moins d'offres sur le marché mondial, il y aura du coup un prix qui va grimper, et ça les producteurs d'Amérique du Sud vont pouvoir en profiter, parce que pour moi c'est une crise du cacao, mais pour les producteurs c'est une aubaine. On vient à bout d'un système où on a payé trop peu la fève de cacao aux producteurs, et donc on a une espèce de retour de bâton où finalement les producteurs qui sont moins impactés par ce changement climatique, qui continuent à faire quand même de bons volumes de production, eux vont avoir un prix bien plus intéressant par rapport à ce qu'ils avaient avant. Ça, c'est la première chose. On est impacté par rapport au prix. Par contre, pour les producteurs qui, eux, produisent du cacao, c'est vraiment une opportunité pour eux de vraiment valoriser leur travail qui n'a pas été fait pendant de longues années.
Comment vous déterminez le juste prix d'une tablette ?
Alors, déjà, il faut que le producteur puisse en vivre. Quand on a lancé le projet en 2022, c'est vrai que le prix de la fève de cacao était relativement bas.
C'est-à-dire à combien ?
La tonne était autour de 1500, 2000, ça oscillait entre 1500 et 2000 dollars la tonne. Aujourd'hui, on est à 8,3. On est monté à 12,5, 13 pendant le pic de la crise. Donc, c'est-à-dire que le cacao a fait x5. Forcément, c'est ce qui va expliquer l'augmentation du prix du chocolat pour tout le monde. Nous, à l'époque, on va l'acheter déjà autour de 5,5 dollars le kilo, avec une augmentation de prix tous les ans. Donc tous les ans, on avait avec nos producteurs, on était mis d'accord pour dire que voilà, le projet se lançait, on n'avait pas forcément les moyens d'acheter beaucoup plus cher. L'objectif, c'était que la chocolaterie à Saint-Janet grandissait en même temps que les producteurs pouvaient grandir ensemble, main dans la main. Et alors aujourd'hui, cette crise du cacao nous a un peu impacté, c'est-à-dire que au lieu de l'acheter à 5,50, maintenant on l'achète à 10.
Parce que c'est le double.
C'est le double. C'est comme ça. Malheureusement, pour le consommateur, le cacao devient un produit plus rare.
C'est presque un produit de luxe. Hein.
C'est un produit de luxe.
Votre une tablette de racines carrées, c'est entre 9 et 12 euros les 60 grammes.
À peu près, ouais. Tout à fait. Ça va être le prix. On n'a pas augmenté nos prix de tablettes. On est resté sur le même prix de tablette par rapport au moment de la création du projet, parce que déjà on faisait déjà un effort assez important à la base. Aujourd'hui, ce qui est pour nous une opportunité finalement d'avoir un prix de chocolat de supermarché plus élevé, nous une tablette qui est restée au même prix, finalement la démarche de se dire eh ben je vais plutôt consommer du racine carré qu'une tablette de supermarché. L'écart entre le prix de la tablette de supermarché et notre tablette s'est réduit finalement. Et donc du coup, je pense que le consommateur aujourd'hui, il se dit, bah voilà, je vais pas mettre, je sais pas, 5-6 euros pour une tablette de supermarché de mauvaise qualité. Je vais plutôt préférer aller chercher une tablette chez Racine Carrée à 9 euros où je connais la traçabilité du produit, je connais le producteur qui a été derrière, je connais le travail qui a été fait sur cette tablette, je sais que tout le monde a été bien rémunéré et que tout le monde arrive à en vivre. Et surtout, on a un chocolat qui est avec uniquement deux ingrédients, ce qui est pour moi signe d'un produit de très bonne qualité. Le moins d'ingrédients possible derrière la tablette, c'est comme ça qu'on arrive normalement déjà à sélectionner dans un premier temps sa tablette de chocolat. Moins on va avoir d'ingrédients, meilleur le produit sera. Donc nous, on est juste avec de la fève de cacao et du sucre. On ne rajoutera pas de vanille, pas de lécithine de soja ou de tournesol. On ne rajoutera pas de beurre de cacao en plus dedans. Les fèves de cacao sont suffisamment grasses parce qu'elles sont de bonne qualité, qui nous permettent du coup de travailler uniquement ces deux ingrédients sans rajouter rien d'autre dedans, quoi.
Les bonnes choses sur France Culture, ce midi, font le portrait d'un chocolatier passionné, on l'entend. Il est midi et quart sur France Culture.
Qu'est-ce que vous faites ?
Je fabrique du chocolat, voyons. Tu préfères quoi ?
J'en sais rien. J'ai jamais goûté de chocolat.
T'as jamais goûté de chocolat ?
Non.
Eh bien, heureusement pour toi, j'ai une sélection des meilleurs ingrédients du monde dans ma chocolaterie de voyage.
Wow.
Par où commencer ? Telle est la question. Je sais. Un avenir radieux, composé de nuages orageux concentrés et d'extraits de rayons de soleil.
Vous avez toujours voulu fabriquer du chocolat ?
Non. Quand j'avais ton âge, je voulais être magicien. Goûte-le.
Extrait du film Wonka avec la voix française de Timothée Chalamet, un film de 2023 adapté de Charlie et la chocolaterie. Nous aussi, on a un magicien avec nous autour de la table, un magicien du chocolat, la personne de Mathéo Cosnefroy de l'entreprise Racine Carrée à Saint-Janet. En France, donc c'est sur les hauteurs de Nice. C'est un petit village.
Tout à fait, petit village perché, le début du parc du Mercantour. C'est un petit village où tout le monde se connaît, tout le monde se salue, voilà, c'est un des rares villages en France où les gens se disent bonjour dans la rue, où les enfants jouent dans la rue librement.
Vous n'avez pas fait beaucoup de villages en France, on se salue quand même dans la rue.
Oui, mais, moi je suis né à Paris quand même, donc j'ai une expérience.
C'est pas un petit village. Hein,
j'ai une expérience, voilà. Après j'ai beaucoup voyagé, j'ai notamment vécu au Pérou dans des petits villages péruviens où on retrouve justement ce côté humain où le voisin a besoin d'un coup de main, on va l'aider. On a une vraie, on est solidaire et soudé entre nous. On retrouve un peu cet état d'esprit à Saint-Janet.
Qualité humaine, qualité du cacao, qualité de vos chocolats, Mathéo Cosnefroy, vous nous disiez que vous aviez deux ingrédients, point. Pas de pistache dans vos chocolats depuis quelques temps.
Aujourd'hui,
on sait qu'il y a le phénomène du chocolat de Dubaï qui est fourré à la pistache et aux cheveux d'ange. Tiens d'ailleurs, on vous a dégoté une petite vidéo sur TikTok.
Une tablette de Dubaï, regardez comment elle est énorme, elle est plus grosse que ma tête. Donc, on va la déballer. D'ailleurs, c'est une fille de Reims qui fait ça. Je vous mettrai son compte juste en dessous. Et donc celle-ci, c'est chocolat au lait pistache. Elle est juste énorme. J'ai envie de la... Je sais pas si je croque dedans directement ou si je la casse en deux. Je pense que je vais la casser en deux. Ok, ça donne trop envie. Regardez comment c'est fondant. Bon, on goûte. C'est hyper bon. Le chocolat, il est bien craquant. Et dedans, c'est hyper fondant. J'adore.
Bon, c'est presque une caricature hein, de ce qu'on trouve sur TikTok. Mais le chocolat de Dubaï, c'est pas votre chocolat du tout, Matteo Cosnefroy.
Alors,
il est très cher en plus, le chocolat.
Ouais, très cher pour des produits qui ne sont pas forcément très bien sourcés, pour le coup. Aussi bien le chocolat que la pistache. Voilà, c'est pas notre philosophie. Nous, on a plutôt tendance à connaître... On fait un effort pour connaître tous nos producteurs de cacao. On fait aussi un effort pour connaître tous nos producteurs des autres produits avec lesquels on va travailler. Je pense à la noisette du Lot-et-Garonne, de notre ami Mathieu Martinet, ou bien l'amande de Hervé Lozier à Châteauneuf du Rhône, juste en dessous de Montélimar, dans la Drôme. Les cacahuètes des Landes, de Souston. Voilà, on va vraiment sourcer absolument tous nos produits. On travaille aussi avec des produits locaux. On a toute une gamme sur les produits fabriqués autour de Saint-Janet. On va travailler avec le vin, le vignoble Ras, le vignoble du village de Saint-Janet, qui est en fait mon meilleur ami, avec qui j'ai fait mon école d'ingénieur et on s'est retrouvé du coup à Saint-Janet. On travaille avec le safran que sa tante produit. On va travailler avec le citron de Menton. Voilà, on a vraiment... on a vraiment envie de connaître absolument tous les producteurs avec qui on travaille, la traçabilité et l'histoire qu'il y a derrière chacun.
D'ailleurs, votre chocolat au citron de Menton, si je ne m'abuse, a été médaille d'argent d'un concours.
Tout à fait. Cette année, au Salon du Chocolat, on a gagné une médaille d'argent pour cette tablette au citron, une autre aussi pour un chocolat qu'on propose, qui est un chocolat non torréfié. On appelle ça le chocolat cru. Comme j'expliquais tout à l'heure, on a des fermentations qui peuvent être plus longues. Et la fermentation, une fermentation assez longue de 15 jours, nous permet d'avoir des fèves qui sont naturellement déjà très aromatiques. Et on n'aura pas besoin forcément de torréfier la fève. Ça va donner des notes un peu plus fraîches. C'est des chocolats qu'on va vendre un peu plus en été, quand il fait chaud. Nous, on est dans le sud de la France, donc l'été, on a des bonnes chaleurs. Bon, dans le nord aussi, on dira. Mais voilà, c'est vrai qu'il fait assez chaud. Et quand il fait chaud, le chocolat, bon, on n'a pas forcément toujours... trop envie. Là, au moins, c'est des notes beaucoup plus sur le fruit, un peu plus de fraîcheur, un peu plus d'acidité, qui est très intéressant. Et puis aussi, l'année dernière, on a gagné une médaille d'or et un coup de cœur du jury pour une tablette végétale, où on remplace en fait la poudre de lait, classiquement utilisée dans le chocolat au lait, par un cousin du cacao, qu'on appelle le marambo. Le nom scientifique, c'est Theobroma cacao, Theobroma bicolore, excusez-moi, le nom scientifique du cacao c'est Theobroma cacao, et donc du coup c'est une tablette de chocolat au lait, mais qui est fait pour les gens qui sont intolérants au lactose ou qui ne veulent pas consommer de protéines animales.
C'est ce que j'allais vous demander, vous ne faites pas que du chocolat noir?
Exactement, on va avoir vraiment pas mal de chocolats différents. Alors c'est vrai que 80% des produits qu'on va vendre sont généralement fabriqués avec du chocolat noir.
Forcément 70% et plus?
Non.
C'est indispensable, ça?
Non, en fait, le pourcentage, pour moi, il indique sur le niveau de sucre. Hein, comme on travaille deux ingrédients, c'est très facile de faire le calcul. Une tablette à 85% de cacao, c'est 85% de fèves de cacao et 15% du coup de sucre. Ça, c'est une manière pour le consommateur de se repérer.
Se repérer, oui.
Après, je peux totalement vous faire goûter notre chocolat churro à 62% et notre chocolat alto guayabamba à 67%. À l'aveugle, vous êtes incapable de me dire lequel va être le plus sucré.
Entre 62 et 67, non, mais entre 45 et 99, un peu plus.
Alors ça, oui, on est d'accord. mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, la fève de cacao va être plus ou moins puissante. Et donc du coup, mon chocolat 62%, finalement, il a une certaine puissance aromatique, là où mon chocolat 67% va être beaucoup plus doux, beaucoup plus consensuel, beaucoup plus rond et plus facile à déguster. Alors que le 62, mine de rien, la fève de cacao est différente et donc va avoir un profil aromatique un peu plus amer, un peu plus puissant par son terroir.
Est-ce que, Matteo Cosnefroy, on peut faire des desserts avec votre chocolat ou est-ce que c'est du gâchis ?
Alors, moi, j'adore faire tes desserts avec mon chocolat et je sais qu'il y a pas mal de chefs et de pâtissiers qui font des desserts avec notre chocolat. Maintenant, le risque, c'est de dénaturer un peu le goût du chocolat. C'est pour ça que généralement, ils vont essayer de travailler sur certaines recettes où on va surtout mettre en avant le chocolat avec très peu d'ingrédients. Par exemple, je sais qu'il y a un de mes chefs préférés qui fabrique une tartelette au chocolat où il fait juste fondre du chocolat avec de l'eau, en faisant une ganache à l'eau qui coule sur son fond de tarte et qui sert comme ça en dessert.
Et on peut faire du chocolat avec toutes sortes de fèves de cacao et on peut faire des gâteaux avec un peu moins de sortes différentes de tablettes pour pas gâcher donc ce bon chocolat. Mais pour cela, on peut aussi se reporter au conseil, au bon conseil de Déborah Dupont-Daguet dans son livre que vous avez sous les yeux, Mathéo Cosnefroy, Le chocolat de nos rêves, qui est apparu chez First Edition avec les photos qui donnent très envie de Géraldine Martins. Déborah Dupont-Daguet, bonjour.
Bonjour Caroline.
C'est quoi vous le chocolat de vos rêves?
Le chocolat de mes rêves, c'est un chocolat, j'aime bien moi quand c'est assez rond, notamment en gâteau. C'est vrai qu'ensuite à croquer, là on peut être sur des palettes aromatiques qui vont tirer plus sur des fruits, sur des notes parfois caramélisées, sur un peu plus d'amertume aussi.
Alors vous dites que dans votre livre, 60 recettes de chocolat sont coulants, fondants, crème, moelleux, craquants, pas comme les autres, bien sûr. Et vous avez entendu Mathéo Cosnefroy dire que on peut utiliser bien entendu du très bon chocolat, par exemple pour faire une tarte à la ganache. Il y a une tarte à la ganache dans votre livre. En fonction de quoi vous choisissez votre type de chocolat?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que Mathéo a expliqué. Moins il y a d'ingrédients, plus il faut que le chocolat ait une qualité supérieure. C'est vrai que quand on est sur une ganache, qu'elle soit à l'eau ou à la crème, la ganache, c'est du chocolat qui va être haché, sur lequel on va verser en fait un liquide chaud et le chocolat va fondre. C'est vrai que quand il y a que deux ingrédients, il faut que le chocolat soit très bon. C'est pareil pour la mousse au chocolat. Une mousse au chocolat, là, je trouve qu'on voit vraiment des différences selon la tablette utilisée, selon vraiment la qualité du chocolat et puis la palette aromatique. C'est vrai que quand on est sur des gâteaux où on va rajouter des œufs, du beurre, du sucre, de la farine, là on peut utiliser des chocolats un peu plus standards parce que on verra moins la différence puisqu'il y aura plein d'autres ingrédients pour obtenir la texture du gâteau qu'on souhaite.
Alors j'ai déjà dit la tarte à la ganache, la mousse au chocolat noir de grand-mère, bien entendu, dans votre ouvrage Déborah Dupont-Daguet. Vous proposez également, d'ailleurs vous nous l'offrez pour notre site internet, le gâteau nuage au chocolat. Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est une sorte, un peu de gâteau de Savoie. C'est-à-dire, ça va être des ingrédients très simples. Hein, des œufs, de la farine, de la fécule de maïs, du cacao amer en poudre, du sucre. Donc, on est vraiment sur des ingrédients de base. On va mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Ensuite, on va rajouter les poudres, donc farine, fécule de maïs, cacao amer. On va monter simplement les blancs en neige, qu'on va ajouter à la préparation. On va mettre ça dans un moule beurré fariné, et puis on va faire cuire. Et c'est un gâteau très moelleux, très aérien, à l'opposé complet de ces gâteaux très gras, très fondants, très denses. Donc c'est ça ce que je trouve génial avec les gâteaux au chocolat, c'est qu'on peut vraiment jouer avec des textures différentes et qui sont des sensations en bouche qui n'ont rien à voir.
Merci Déborah Dupont-Daguet.
Merci à tous les deux.
Votre ouvrage, Le chocolat de nos rêves, chez First Edition, sera en référence sur notre page internet. Où est-ce qu'on peut manger du bon chocolat de Racine Carrée? Où est-ce qu'on le trouve?
Alors,
à Théo Cosnefroy.
Vous pouvez en trouver aujourd'hui au Beaumarchais.
On vend des tablettes. Ça, c'est à Paris?
À Paris, exactement.
En dehors de Saint-Jeannet, bien entendu. Hein.
Exactement, à Paris. Vous pouvez le manger en dessert à l'hôtel du couvent à Nice. Qui a trois restaurants, une guinguette, un bistrot et un resto un peu plus, alors on peut pas dire gastro, mais un peu plus haut de gamme. On va pouvoir le trouver au restaurant Le Canon aussi à Nice. Après, on est revendu à Bordeaux.
Vous livrez ou pas?
On envoie sur internet.
Bon, et ben voilà, on mettra toutes les références sur notre page internet, bien entendu, et c'est là qu'on trouvera les adresses où on peut vous trouver et aussi la livraison. Un grand merci, Mathéo Cosnefroy, d'être monté à Paris, on dit, depuis Nice. Vous avez pris les transports ce matin pour nous rejoindre. Un grand merci et bravo pour votre délicieux chocolat. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet pour télécharger cette émission et toutes les autres. Rendez-vous sur l'application de Radio France avec la petite équipe des bonnes choses. Audrey Carme aujourd'hui à la préparation, Fanny Constant à la réalisation, Noé Chaban à la prise de son. Nous vous souhaitons Une excellente journée à l'écoute de France Culture.